Bien sûr, on vient de parler pas mal d'inondations, mais il n'en demeure pas moins que sur la scène fédérale cette semaine aussi, des préoccupations suite à l'élection de Jason Kenney, notamment en Alberta. Pour en parler, c'est avec grand plaisir que je l'accueille à nouveau, Esther Bégin, chef d'antenne francophone chez CEPAC. Bonjour Esther.
Bonjour Rock.
Bien sûr que l'élection en Alberta a laissé personne indifférent ici à Ottawa.
Oui, parce que bon, c'est une victoire décisive de Jason Kenney qui survient à 6 mois d'élection fédérale. Alors, tout le monde se demande quel impact ça va avoir sur l'élection, la campagne électorale au pays. Tu sais, ça serait étonnant de voir Jason Kenney lui-même comme premier ministre s'immiscer dans la prochaine campagne électorale. Mais l'Alberta pour imposer ses thèmes, parce que tu l'as vu comme moi, M. Kenney est vraiment gonflé à bloc. Là, il veut des pipelines au plus vite. C'est même adressé au Québec en français le soir de sa victoire, même si ça a été tout de suite une scène non-recevoir de M. Legault. On sent que Jason Kenney ne lâchera pas le morceau, qu'il va joindre les mouvements pro-pipeline au pays pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, ça peut être un gros enjeu dans la campagne électorale fédérale, évidemment. Kenney a aussi annoncé qu'il va abolir la taxe sur le carbone, va joindre le mouvement de contestation de l'Ontario, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick. Et il menace, t'as sans doute vu ça comme moi, de tenir un référendum sur la péréquation, parce qu'on sait que l'Alberta reçoit pas d'argent de la péréquation et lui juge que la formule de péréquation est inéquitable pour l'Alberta. Donc, vraiment, pipeline, taxe sur le carbone, référendum, la péréquation, trois gros enjeux qui pourraient se retrouver dans la campagne électorale fédérale, parce qu'on sent que Jason Kenney veut brasser la cage. Donc, des enjeux avec lesquels le premier ministre Trudeau va avoir à jongler, les autres chefs aussi. Donc, même si Jason Kenney ne sera pas présent dans la campagne, on peut s'attendre à ce que ces enjeux, en fait, ce qui lui tient à cœur, soient discutés dans la campagne, deviennent des enjeux de la campagne électorale fédérale. Évidemment, la question que plusieurs se posent, c'est quel impact aussi la victoire des conservateurs en Alberta à voir sur Justin Trudeau et sur Andrew Scheer lors de la prochaine élection. Je ne sais pas si tu as ta théorie là-dessus, parce que bon, l'Alberta vient de passer conservatrice, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, c'est d'une certaine façon le Québec aussi, là, est passé plus à droite depuis la dernière élection fédérale en 2015. Donc, est-ce que les électeurs canadiens vont vouloir suivre le mouvement conservateur des provinces, voter pour Andrew Scheer, ou au contraire, est-ce qu'ils vont vouloir apporter une sorte de contrepoids au mouvement conservateur qui s'installe de plus en plus dans les provinces? Ce qui pourrait favoriser les troupes de M. Trudeau. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? As-tu une opinion là-dessus?
Oui, bien, ça donne une occasion à M. Trudeau, évidemment, d'être le rempart, parce que la trame de fond de tout cela, c'est, sur en tout cas les enjeux de l'Alberta, c'est la question de l'unité canadienne. Parce que là, lorsqu'on commence à frapper sur la question de la péréquation, on sait que le Québec reçoit le gros morceau de la péréquation. Il y a 6 provinces qui en reçoivent. Le Québec reçoit le plus gros morceau, plus de 60%.
13 milliards cette année.
C'est ça. Alors, c'est majeur. Alors, la trame de fond sera la question de l'unité canadienne. Est-ce que, en ayant cette situation-là dans plusieurs provinces canadiennes, notamment de plus à droite, est-ce que M. Trudeau voit là un espace politique pour se lever en disant « ça prend un contrepoids à Ottawa, ça prend un leader fort avec un gouvernement central fort pour tenir tête aux provinces ». Prochaine question, c'est sur la question de la péréquation. Andrew Scheer se place comment? Parce que là, je comprends que ce sont des frères d'armes chez les conservateurs, Kenney et lui. Sauf que, comme chef d'un parti national, les conservateurs canadiens, quelle position prendra-t-il sur la question de la péréquation? Je ne pense pas maintenant qu'il y a une réponse encore à ça. Tout le monde, je ne suis pas sûr qu'on est capable d'avoir des réponses à tout cela, mais ça vient changer l'échiquier politique, ça c'est certain.
Oui, c'est ça. Puis, ben, c'est comme tu dis, tu sais, on est à 6 mois des élections au pays, donc c'est trop tôt pour prévoir ça. Mais tu sais, beaucoup de monde spécule là-dessus. Il y a une chose qui me semble certaine, quand même, Rock, c'est que si Andrew Scheer gagne pas la prochaine élection fédérale, ce qui va être intéressant à voir, c'est que Jason Kenney va probablement être vu comme le futur chef fédéral en attente. Hein, parce que M. Kenney a fait de la politique fédérale d'abord. Il a été ministre sous Stephen Harper. On peut penser qu'être premier ministre du Canada, ça pourrait l'intéresser. Tu sais qu'il a juste 50 ans. Il est parfaitement bilingue. Ça fait longtemps qu'il fait de la politique. Ça fait 22 ans, parce qu'il a été élu pour la première fois au fédéral en 1997. Ouais. Et il semble pas avoir, semble pas avoir fini d'en faire, je te dirais. Il a l'air d'aimer ça, il a l'air sur une lancée. Donc, il va être intéressant à suivre, Kenney, si jamais M. Scheer ne remporte pas la prochaine élection à Ottawa, il va être vu, je pense, rapidement comme le prochain chef fédéral.
C'est fort possible. Esther, le temps file. Je veux te parler de quelque chose qui arrivera la semaine prochaine. Tu vas commencer à présenter une seconde série d'entrevues intimistes. Puis là, tu rencontres des gens assez intéressants. Merci.
C'est encore, une belle sélection d'invités. Donc, une deuxième série d'entrevues, des portraits avec des personnalités canadiennes de tous les horizons. Donc, je commence, c'est diffusé à partir de lundi prochain à CEPAC, avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Tu sais, c'est une politicienne atypique là, qui est arrivée un peu du champ gauche. Personne ne l'a vu venir. Elle était presque totalement inconnue des Montréalais. Elle a battu l'archi-connu omniprésent Denis Coderre à l'élection de 2017. Elle est passée à l'histoire parce qu'elle est devenue la première femme maire de Montréal en 400 ans d'histoire. Donc, une politicienne vraiment atypique que j'ai rencontrée. Intéressante, tu sais. Quand je dis atypique, elle rit tout le temps. Elle est vraiment... Elle est singulière, tu sais. Elle est un peu... Elle est rafraîchissante, si je dirais. Elle est spéciale. Tu sais, je lui dis, on vous reproche, Mme la mairesse, de ne pas être présente en ville, tu sais, d'être un peu invisible, tu sais, parce que son prédécesseur, M. Collette, est partout. Tu sais, puis ah, oh, oui, on me reproche ça. Puis là, elle me répond que pour elle, la conciliation politique-famille, ça passe par le fait qu'elle entre à la maison le soir pour être avec son mari et ses deux fils, parce qu'elle est mère de deux adolescents. Tu sais, c'est vraiment une réponse de politicienne de sa génération. Là, une fille là, qui, bon, moi, je commencerai pas à... Il y a d'autres choses dans la vie que d'être maire de Montréal, même si tu la sens très, très dédiée. Alors, c'est une personnalité, je te dirais, intéressante. Juste une anecdote sur elle, parce que quand on tourne ces entrevues-là, je travaille toujours avec deux caméramans. Il y en a un qui dit pas un mot français. Tu sais, je travaille avec des anglophones. Et on a fait l'entrevue en français. Et après l'entrevue, le caméraman anglophone me dit, Esther, I loved her. Bobby, I loved her. Tu sais, il l'a trouvé intéressante. Il l'a trouvé particulière. Il l'a trouvé rafraîchissante. Tu sais, c'est une fille.
Alors qu'il comprenait pas un mot.
Non, alors qu'il comprenait pas un mot, tu sais, j'ai dit comment.
Je sais pas si c'est un compliment.
Non, elle a vraiment quelque chose. Elle nous a entraînés dans quelque chose, vraiment. Autre personnalité, mais assez atypique que j'ai rencontré aussi, l'homme d'affaires Pierre-Carl Péladeau. C'est très volubile, tellement qu'on va faire deux demi-heures avec lui. Il s'est vraiment livré. Vraiment, je dirais, Rock, Pierre-Carl Péladeau, c'est un homme, cultivé. Il a lu les auteurs, Hegel, Kant, Marx. Il nous parle de tout ça, des grandes décisions de sa vie. Il y a un moment drôle, d'ailleurs. Lorsque j'y parle de sa décision de se lancer en politique en 2014, je m'étais dit avant l'entrevue, bon, je vais faire attention de la façon dont j'amène le fameux point pour faire du Québec un pays. Finalement, c'est lui-même qui a amené le sujet, puis il riait. Je pense que vous avez un extrait qu'on peut, peut écouter.
Oui, on va l'écouter.
Ça vous a donné le goût, à un moment donné, du service public?
Ben, vous savez, à un certain moment, dans la vie d'un individu, donc on se pose la question, est-ce que tu vas faire ça tout le reste de ta vie ou éventuellement tu souhaiterais faire autre chose? Et c'est effectivement à l'aube de la cinquantaine que ce genre d'interrogation vous interpelle et auquel vous devez répondre. Les circonstances faisaient en sorte que je considérais qu'il était peut-être le moment venu pour faire autre chose, sachant que les réalisations qui avaient été effectuées, puis je pense que j'avais bien orienté l'entreprise, que ce soit donc dans le changement de culture, dans l'anticipation des choses qui allaient se produire.
Planètes étaient alignées.
Oui, exactement.
Bon. Alors. L'année suivante, en 2014, vous décidez de faire le saut en politique. Ça fait couler beaucoup d'encre. Vous aviez dit à quelques reprises...
Ça fait beaucoup d'encre.
Ça vous fait rire.
Ben oui. Ben oui. Faire du Québec un pays.
Faire du Québec un pays.
Vous l'amenez sur le sujet. Quand vous êtes entré en politique, tous les qualificatifs sont sortis. Coup de tonnerre dans le monde politique, coup de théâtre dans le monde politique, bombe dans le monde politique. Est-ce que vous pensez que c'est à cause du point que ça a eu autant d'impact?
Si, effectivement, il y a toutes sortes d'interprétations qui ont été appelées à être faites. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je pense qu'il y a un peu de tout.
Mm-hmm. Oui, justement, plusieurs moments marquants, parce que là, il fait référence à ça, notamment. Il y a pas mal de confidences là, dans cette émission-là.
Oui, 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 tu sais, même Pierre-Carl Péladeau, tu sais, parle de ses difficultés d'adaptation au monde de la politique, c'est différent du monde des affaires, tu sais, des moments difficiles, et de sa vie d'homme d'affaires, notamment quand il a dû laisser aller Québecor World, des trucs comme ça, nous raconte, tu sais, sa vie avec ses enfants, tu sais, ce qu'il garde jeune, il est très ouvert, j'ai vraiment aimé ma rencontre avec Pierre-Carl Péladeau. Bon. Une autre belle rencontre avec la juge québécoise de la Cour suprême, Suzanne Côté. C'est une histoire vraiment singulière. Elle, c'est une fille de pêcheur de la Gaspésie. Elle avait un petit village de rien, là, quelques centaines d'habitants. Puis, bon, des études en droit, puis finalement, force de travail, d'acharnement, a gravi tous les échelons, puis est nommée juge au plus haut tribunal du pays. Tu sais que c'est la première femme de l'histoire du Canada à passer directement de la pratique privée à juge à la Cour suprême du Canada. Tu sais, puis elle a beaucoup de candeur. Elle me raconte que quand le premier ministre Harper l'a appelée, tu sais, parce qu'elle a été nommée sous Harper en 2014, genre en décembre 2014, bon, elle reçoit le coup de téléphone du premier ministre. Elle ne s'attendait pas à ça du tout, du tout. Et elle me dit qu'elle a pensé au départ dire non. Elle a pensé de refuser. Puis elle est en couple avec l'avocat Gérald Tremblay, qui est un des plus grands plaideurs au Canada, donc très, très connu, qui a dit, ben voyons, Suzanne, tu peux pas refuser ça. Quand tu es appelé à servir comme ça, tu dis oui.
C'est important donc, ce que tu as dit, Esther. C'est important ce que tu as dit, parce que c'est assez rare, pour ne pas dire jamais, qu'on a vu ça. Elle n'était pas juge nulle part. Là. Elle était avocate. Non, passer d'avocate à juge à la Cour suprême, il faut le faire.
Non, non, c'est ça, elle a jamais... Écoute, c'est une grosse avocate de pratique privée là, à Montréal, hyper connue, tu sais, elle était boulotteuse, travaillante, mais jamais, elle n'a jamais été juge, même pas cour supérieure, dans aucun tribunal.
Même
et
pas.
Puis, paf, ouais. Elle est passée à la Cour suprême, tu sais, puis elle a dit, je pensais que j'allais rentrer au monastère, tu sais, à la Cour suprême, puis, parce que c'est une fille très pétillante, allumée, passionnée, tu sais, elle a du fun dans la vie, elle. Donc, mais tu sais, elle adore ça, là, tu sais, tu la trouves vraiment passionnée par son travail.
Et tu rencontres Michaël Jean, oui. Oui,
Michaël Jean, qui vient de terminer il y a quelques mois son mandat de secrétaire général de l'OIF, ou qui revient sur son enfance et tout. Bon, tu sais qu'elle a un parcours quand même assez riche, là, journaliste, chef d'antenne à Radio-Canada. Elle nous rappelle, et on la sent blessée, que quand elle est rentrée à Radio-Canada, on l'appelait l'ethnie de service dans les médias. Tu sais, ça l'a blessée. Elle nous parle de ses différentes fonctions, son rôle de gouverneur général, sa rencontre, ses rencontres, tu sais, qu'elle a fait. On l'a senti marqué par sa rencontre avec Barack Obama. Elle est revenue sur la controverse qui a entouré ses frais d'installation à Paris. En tant que secrétaire général de l'OIF, j'imagine qu'on t'a entendu parler de ça. On la sent encore, je te dirais, Rock, blessée par ça. Elle n'a pas passé par-dessus ça. Ça a été très difficile pour elle. Bon, je lui demande ce qu'elle compte faire à partir de maintenant parce qu'elle est revenue au Canada. Elle veut encore servir. Elle aimerait un rôle à l'international. Elle aussi, très volubile. On a donc décidé de faire deux demi-heures avec elle. Donc, pour les dates de diffusion, Valérie Plante, lundi la semaine prochaine, le 22, toujours à 21h. Pierre-Carl Péladeau, mardi et mercredi, 23 et 24, 21h. Suzanne Côté, jeudi de la semaine prochaine, le 25. Le vendredi, on remet en reprise Valérie Plante. Et Michaël Jean, ça va être samedi et dimanche, 27 et 28 avril à 21h.
On sera à l'écoute avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Esther. Bonne semaine.
Merci. Merci, Rock. Bye.
Bye. OK. Esther Bégin, chef d'antenne francophone à CEPAC.